Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est tout juste 16h à Paris.
Olivier Sherman.
Au moins 26 personnes tuées lors d'un attentat terroriste au Cachemire indien dans le nord du pays. C'est l'attaque la plus meurtrière contre des civils en Inde depuis 2008. Une vaste traque a été lancée pour retrouver les assaillants. Nous retrouvons à Bangalore comme Bastin. Emmanuel Macron est à Madagascar. D'importants accords économiques vont être signés et la présence française dans le canal du Mozambique sera au programme des discussions, nous expliquera Nicolas Feldman. Très forte poussée dans les sondages de l'extrême droite en Allemagne, à 2 semaines de la prise de fonction du nouveau chancelier du jamais vu outre-Rhin. Analyse de notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Enfin, au Canada, un pesticide utilisé il y a près de 60 ans, retrouvé dans des truites et dans la boue des lacs d'une province, d'un pays. C'est le constat fait par des scientifiques qui ont publié une étude dans une revue scientifique. Un pesticide dangereux pour l'homme, nous dira Pauline Berger. C'est donc l'attaque la plus meurtrière contre des civils en Inde depuis 2008. Au moins 26 personnes tuées lors d'un attentat terroriste au Cachemire indien dans le nord du pays. 17 autres personnes dans cette attaque au cours de laquelle des hommes armés ont ouvert le feu sur des touristes. Les forces de sécurité indiennes ont lancé une vaste traque contre les assaillants. Cette tuerie secoue d'autant plus le pays qu'elle a lieu dans un état symbolique pour toute l'Inde, au-delà des clivages politiques. À Bangalore, comme Bastin.
C'est un séisme pour tout le pays. D'abord pour Narendra Modi, qui avait promis d'en finir avec le terrorisme et supprimer en retour beaucoup de libertés dans cette région à majorité musulmane. Douche froide aussi pour l'opposition, élue en octobre en prônant la réconciliation dans le Cachemire, en crise politique et sécuritaire depuis des décennies. Le Resistance Front, le groupe terroriste qui a revendiqué l'attaque, dit s'être formé en réaction à la suppression de l'autonomie du Cachemire en 2019. Mais les services secrets indiens jugent qu'il est soutenu par le Pakistan, adversaire mortel en conflit frontalier avec l'Inde dans cette région himalayenne. Cela en fait un ennemi de l'intérieur et de l'extérieur à la fois. Si l'opposition a été critique de la politique autoritaire des nationalistes hindous au pouvoir, elle condamne aujourd'hui sans réserve le bain de sang. Les informations manquent, mais selon la presse indienne, des musulmans seraient descendus dans la rue pour se dissocier des terroristes. Tout le monde, ici, veut éviter des affrontements intercommunautaires. Comme Bastin, Bangalore, RFI.
La guerre à Gaza, Mahmoud Abbas demande au Hamas de libérer les otages. Pour le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le Hamas a fourni à l'occupation criminelle des prétextes pour commettre ses crimes dans la bande de Gaza. Le plus flagrant de ces prétextes étant la détention d'otages, déclare-t-il. C'est moi qui en paye le prix, notre peuple en paye le prix. Pas Israël, libérez-les, conclut Mahmoud Abbas. Emmanuel Macron poursuit sa tournée dans l'océan Indien. Après les départements français de Mayotte et de La Réunion, le président est à Madagascar. Un déplacement marqué par des discussions sur la présence française dans le canal du Mozambique. C'est dans cette zone maritime qui sépare le continent africain de Madagascar qu'Antananarivo revendique plusieurs îles françaises, les îles Éparses, une zone disputée car ce carrefour est hautement stratégique. Les explications de Nicolas Feldman.
Le canal du Mozambique, long de 1500 km, est d'abord une route du transport maritime mondial, un axe redevenu central ces derniers mois depuis les tensions en mer Rouge. Jean-Marc Balancier est expert de la région pour le cabinet de conseil Attica Analysis.
Une bonne partie du trafic international qui passait par Suez a été détournée, ce qui a entraîné une augmentation très significative du trafic passant par le canal du Mozambique. C'est une route assez stratégique parce que donc ça permet de joindre les marchés que sont du Nord ou en Europe.
Mais les eaux du canal du Mozambique, très riches en poissons, abritent aussi d'importantes réserves de gaz et de pétrole.
L'exploitation a déjà démarré en Tanzanie. Au Mozambique, là où les gisements semblent les plus importants, c'est au niveau de la zone du Cabo Delgado. Plusieurs très grands opérateurs énergétiques occidentaux se sont positionnés dessus. Le problème, c'est que l'insécurité régnant au Cabo Delgado bloque le bon déroulement du projet.
À Mayotte, Emmanuel Macron a insister sur les opportunités économiques du canal du Mozambique pour les Mahorais. Selon le chef de l'État, de grandes entreprises françaises devraient bientôt s'y déployer.
Nicolas Feldman du service économie de RFI. En France, les suites de l'affaire Betaram qui concerne des accusations de violences physiques et sexuelles perpétrées entre les années 50 et 2010 au sein d'un établissement catholique du sud-ouest du pays. Alors que l'actuel Premier ministre François Bayrou doit être entendu le 14 mai par la commission d'enquête parlementaire parlementaire pour savoir s'il savait, s'il avait eu ou non connaissance de ses agissements. Sa fille témoigne ce jeudi dans un entretien accordé au magazine Paris Match. Hélène Perlan raconte les violences qu'elle a subies dans les années 80 au sein de l'institution où elle était elle aussi scolarisée. Elle affirme également, Sophie Volatier-Godard, que son père n'était pas au courant.
Nous sommes à l'été 1983. Hélène Perlan a 14 ans. Elle participe à une colonie de vacances organisée par la congrégation religieuse des Pères de Bétharram dans les Pyrénées. Elle raconte qu'une nuit, l'un des encadrants, l'abbé Lartiguet, la prend par les cheveux et la traîne au sol sur plusieurs mètres. Puis il la roue de coups de pied et de coups de poing. Le lendemain, elle a des bleus sur tout le corps et des acouphènes violents. Elle évacue les questions de ses camarades. Bref, elle ne parle à personne de cette nuit. Dans ce même entretien accordé à Paris Match, Hélène Perlan déclare ne pas avoir vu les violences subies par ses camarades. Elle décrit Notre-Dame de Bétharram comme une secte qui faisait peser sur les élèves la honte et la culpabilité. Des pressions psychologiques qui, d'après elle, empêchaient les élèves de se confier sur ces violences. Et quand bien même plusieurs témoignages accusent son père d'avoir couvert l'affaire, la fille de François Bayrou le martèle aussi, elle ne lui en a jamais parlé. Le témoignage d'Hélène Perlan figure dans le livre « Le silence de Bétharram » écrit par Alain Esquer, porte-parole du collectif des victimes de Notre-Dame de Bétharram.
Merci Sophie Volatier-Godard. 2 mois jour pour jour après les élections générales, l'Allemagne attend son nouveau gouvernement. Le chrétien-démocrate Friedrich Merz doit succéder dans 2 semaines à Olaf Scholz, qui gère toujours les affaires courantes, mais la popularité du futur chancelier a sensiblement baissé et un sondage hier donne un résultat jamais vu à l'extrême droite. Pascal Thibault.
L'Alternative pour l'Allemagne a atteint un score historique il y a 2 mois avec 20% des voix. Dans un sondage publié hier, l'AfD est crédité de 26% et devance les chrétiens-démocrates de Friedrich Merz. C'est un coup de tonnerre politique avant même que le nouveau chancelier ne soit élu. La mise en place attendue d'une coalition entre les conservateurs et les sociodémocrates ne suscite aucun état de grâce. La montée de l'extrême droite s'explique par la déception d'électeurs qui ont l'impression que Friedrich Merz ne tient pas ses engagements ou les remet en cause. Le président de la CDU avait promis une politique migratoire des plus dures et doit composer avec ses alliés sociodémocrates. Le programme massif d'investissement financé par de nouvelles dettes contredit la traditionnelle orthodoxie budgétaire des conservateurs. 1 Allemand sur 5 a confiance en Friedrich Merz. 17% des sondés trouvent le futur chancelier sympathique. Une majorité ne pense pas qu'il fera mieux qu'Olaf Scholz. Et pourtant, le chef du gouvernement sortant battait des records d'impopularité. Après son élection prévue le 6 mai, Friedrich Merz devra donc très vite, avec des premières mesures, prouver aux Allemands que leur scepticisme n'est pas fondé. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Près de 60 ans après son utilisation, un pesticide a été retrouvé dans des truites et dans la boue des lacs de la province de New Brunswick au Canada. C'est le constat fait par des scientifiques qui ont publié une étude dans une revue, le DDT pour dichlorodiphényltrichloroéthane, très utilisé des années 50 aux années 70 dans la sylviculture canadienne, est un insecticide probablement cancérogène pour l'homme. Explication Pauline Berger.
Dans les années 50 et jusqu'en 1968, le DDT était pulvérisé sur les forêts canadiennes de conifères pour les protéger des insectes transportant le paludisme. Plus de 50 ans plus tard, il a été retrouvé dans près de la moitié de la province de New Brunswick, mais aussi dans l'organisme des truites qui vivent dans ces lacs, en quantité importante, parfois jusqu'à 10 fois supérieure au seuil de sécurité nationale. Selon Joshua Kurek, auteur de l'étude, cette pollution menace les écosystèmes et les pêcheurs.
Brook trout, it's the most common fish.
La truite mouchetée est le poisson le plus pêché par les pêcheurs amateurs dans cette province. Ils sont plus de 50 000 à détenir un permis de pêche et la plupart d'entre eux consomment les poissons qu'ils ont attrapés. Et nous savons que chez l'homme, le DDT est reconnu comme probablement cancérogène.
Une menace qui concerne particulièrement les femmes en âge de procréer et les enfants, mais pour s'en protéger, les remèdes manquent.
Il n'y a pas de solution. C'est pour ça que ces produits chimiques synthétiques comme le DDT ont été bannis. La seule solution, c'est le temps. Tout en sachant que le DDT peut persister dans la boue au fond des lacs de plusieurs dizaines d'années à 150 ans.
Interdit d'utilisation pour l'agriculture intensive, le DDT est encore autorisé en petite quantité dans les États qui luttent contre le paludisme, malgré les risques pour la santé humaine.
Enfin, le blanchiment mondial des coraux bat tous des records. 84% des récifs sont désormais endommagés. Tout de suite, c'est pas du vent.